pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 11 juin 2025, l'Union syndicale solidaire et le Réseau syndical international de solidarité et de lutte accueillaient dans leur local parisien Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina, CTAT. Il fut question de la situation sociale en Argentine sous la présidence de Milei et comment le mouvement syndical argentin s'organise et agit.
L'Union syndicale solidaire a pris la décision politique lors de la victoire de Milei. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos camarades en Argentine? Est-ce qu'on va leur envoyer une lettre de condoléances, et on s'est dit que peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. On a pris la décision d'inviter le syndicat du métro de Buenos Aires, avec qui on tisse des relations syndicales depuis à peu près 12 ans. Et il nous a semblé que la meilleure façon de comprendre ce qui se passait en Argentine, la question de la montée de l'extrême droite, comment Milei était arrivé au pouvoir, c'était qu'un camarade nous l'explique. Beto est là déjà depuis 2 semaines. Il a pu intervenir dans plusieurs villes. Les réunions publiques ont été organisées par les solidaires locaux. Donc on est allé à Nantes, à Laval, au plateau des Glières. Il y aura Lyon également. Demain, c'est à l'UL de Malakoff.
Merci
pour l'invitation. C'est toujours intéressant. Quand on intervient comme ça... En fait, quand on a le nez dans le guidon, on n'arrive pas à analyser. Et justement, l'occasion de sortir et de voir depuis ici les événements de là-bas, quoi. Et de pouvoir le partager cette analyse avec des camarades. C'est vrai que ça aide à voir avec plus de clarté les événements.
Las cosas buenas y también los errores que uno puede cometer.
Voilà, les choses, les bonnes choses et également les erreurs qu'on a pu commettre.
Para entender lo que,
pour comprendre
lo que viene pasando desde hace dos años,
ce qui est en train d'arriver en Argentine depuis 2 ans, donc Milei gagne les élections. C'est un personnage, un grotesque personnage. Vous avez pu avoir l'occasion de le voir à la télé. Qui nous a surpris. Sa victoire nous a tous et toutes surpris.
Et
il faut chercher la réponse
de
ce qui s'est passé en Argentine depuis la crise du dernier processus néolibéral. Qui a débouché dans la crise de 2001 et qui a généré, qui a produit qu'un gouvernement soit parti en hélicoptère. Il a fui la maison, enfin l'Élysée argentin, la Casa Rosada, en hélicoptère. Et dans un processus qui a duré 2 mois, même moins, 10 jours, 5 présidents. Avec des crises systémiques, quoi, continuelles.
La crise de 2001 est la crise du modèle néolibéral.
La crise de 2001, c'est vraiment la crise du modèle néolibéral.
Qui a traversé tout le continent d'Amérique latine.
Qui a traversé tout le continent sud-américain.
Qui impliqua lo que fue el Caracaso en Venezuela.
Ça a pris donc ce qui a été le ce qu'on appelle le Caracaso au Venezuela.
Et la crise del 2001 qui est
la crise de 2001, ce qui
non seulement la caída del gobierno, sino muchos
ce n'est pas seulement la chute d'un gouvernement, mais plusieurs morts dans les rues. Des mobilisations constantes avec des face à face avec la police.
Et qui desemboca en una crisis política.
Et qui va déboucher dans une crise politique.
En la cual la real politique.
Dans laquelle la real politique.
Queda completamente desconfigurada.
Est démantelé et perd le masque face à la société. Cette crise récurrente, avant que la crise politique se soit résolue, le gouvernement qui était celui de Duhalde, qui voulait être élu aux prochaines élections, il commence à prendre des mesures. Déjà pour faire face et démanteler les mesures néolibérales. La crise récurrente le mange cru et Duhalde ne peut pas se présenter en tant que candidat.
Il y a
des élections du coup à échelle nationale, des élections présidentielles.
Donde hay muy poca gente que va a votar.
Où il y a un taux de participation très très faible.
Hay una dispersión muy grande del voto.
Il y a une dispersion très importante des voix.
Donde la primera minoría.
Donc la première minorité.
Era el mejor exponente del modelo neoliberal que era Carlos Menem.
C'est celui qui était vraiment le candidat du néolibéralisme, quoi, de la politique, qui était Carlos Menem.
Pero con un 22%.
Mais quand même avec un 22% des voix. Et la deuxième minorité, c'est celle de celui qui sera après, en fait, il sera finalement élu président. Très critique au modèle néolibéral, mais qui n'a que 20% des voix. On part à un second tour avec deux candidats qui ont vraiment très peu de voix.
Menem no se presenta.
Menem finalement ne se présente pas.
El nuevo gobierno asume.
Et le nouveau gouvernement va prendre en charge avec un nombre de voix de 20%.
Lo cual la autoridad política que tenía era muy poca.
Donc l'autorité politique de ce nouveau gouvernement était tout de même assez faible.
Pero tiene una muy buena lectura del proceso.
Mais il va avoir une très bonne lecture du processus qu'on est en train de vivre.
Y rápidamente,
et très rapidement,
muy audazmente,
de façon très audacieuse,
toman una serie de medidas,
il y a plusieurs mesures qui sont prises, des mesures économiques,
que hacen cambiar la dinámica,
qui vont faire changer la dynamique du processus néolibéral en crise.
Et
il va y avoir un développement, une croissance qui va s'enclencher. Une croissance économique importante.
Con una política centralmente distributiva.
Avec une politique de redistribution.
Por ejemplo, la primera medida.
Par exemple, la première mesure
que toma Néstor Kirchner
qui prend du coup Néstor Kirchner quand il est président, il y a une province
que estaba en huelga los docentes,
que, dont les enseignants et les enseignantes étaient en grève depuis 20 jours.
Se sube un avión,
il prend l'avion.
Va a la huelga,
il débarque devant le piquet de grève.
Le da todo lo que pedían los docentes.
Il accepte toutes les revendications des enseignants et enseignantes.
Se gana el conflicto.
Les enseignants et enseignantes gagnent le conflit. Et il revient à la capitale et il commence du coup petit à petit, on porte un regard sur ce nouveau gouvernement, un regard positif.
À partir de ce moment-là,
il met en place des mesures économiques et politiques qui avaient été dans la décennie néolibérale.
Habían sido políticas que habían complicarlo, que el neoliberalismo había aplacado, por ejemplo, la impunidad.
Par exemple, il va annuler des lois qui avaient été mises en place dans la décennie des années 90, par exemple l'impunité des militaires.
Se había prohibido las paritarias, no había negociaciones.
Pendant les années 90, il y avait eu l'interdiction des paritaires. Les tables de négociation de salaire. Les salaires avaient été congelés. Donc, il rouvre les négociations salariales. Et dans tous les cas, et du coup, avec des mesures pour obliger la classe dominante, pour que cette classe dominante soit obligée à faire des concessions au secteur populaire.
La politique de juicio y castigo a los responsables del
Donc la politique de jugement et de châtiment aux responsables de la dictature et du génocide,
lo toma como política de Estado,
ça devient une politique de l'État.
Deroga todas las leyes.
Il va abroger toutes les lois d'impunité.
Lleva a los militares a juicios civiles.
Il y a des procès et avec la justice civile. Condamnation de ces militaires et ils sont en prison, ils vont être arrêtés et mis en prison au niveau que les responsables de la junte militaire, Videla, Massera, tous sont morts en prison. Certains à l'hôpital parce que, mais Videla par exemple, il est mort dans sa cellule. 1200
presos
génocidaires en prison.
También se condenan a civiles
et également, il y a eu la condamnation de civils qui ont été des responsables ou des collaborateurs avec la dictature.
Se lleva juicio a empresas.
Et d'ailleurs, il y a des procès contre des entreprises qui avaient collaboré avec la dictature et plusieurs multinationales.
Ford, Volkswagen. La politique des droits humains
et la politique du coup des droits humains
passe à ser una política institucionalizada por
elle est institutionnalisée par l'État.
Que recupera todos los centros clandestinos.
Il y aura la récupération de tous les centres de détention clandestins. On est en train de parler de presque 700 centres dans toute l'Argentine, centres clandestins de torture, de
como centros de memoria.
Et ils deviennent des centres de mémoire. Des centres culturels où il y aura dans ces lieux des activités culturelles, il y a des visites guidées. Le 24 mars, qui est la date du coup d'État de 1976, devient jour férié. Et ce jour-là, il y a de grosses mobilisations, c'est les 24 mars. Les gens vont participe à la manifestation, aux mobilisations pour la mémoire. Et les enfants, adolescents, dans les différents établissements scolaires, il y a tout un travail dans le cursus scolaire de mémoire, justement, et par rapport à ce qui s'est passé pendant la dictature. Ça va lui donner à ce gouvernement vraiment une base très forte. Il va commencer à résoudre un problème structurel, institutionnel et politique de la société argentine qui a été le génocide.
Obviamente, se hace resarcimiento a los expresos políticos.
Évidemment, il y a des indemnisations pour les anciens prisonniers et prisonnières politiques, pour les exilés également. Parallèlement à cette politique, les mesures économiques essayent de démanteler toutes les mesures néolibérales.
Para eso empieza a desarrollar un estado.
Et du coup, un État qui est renforcé et avec des mécanismes de contrôle.
Empieza a tener política distributiva.
Il va y avoir une politique de redistribution, par exemple, à travers les paritaires.
En las paritarias,
dans l'étape de négociation de salaire,
siempre a favor de los
l'État va toujours être en faveur des syndicats.
Presionando las empresas.
Et en justement mettant la pression sur les entreprises, sur le patronat.
Se derogan leyes que habían...
Il y aura l'abrogation de lois qui avaient été mises en place pendant le néolibéral, la période néolibérale très forte, antisyndicale, de flexibilisation, de précarisation.
Y empieza a generar...
Et enfin, ça va commencer à générer...
producto de la situación favorable.
Et également fruit de la situation, de la conjoncture internationale favorable, économique.
En la época de los commodities.
C'est l'époque des commodities où les matières premières ont des prix très élevés.
Para apropiarse
pour
de las superganancias,
s'approprier de la,
la patronal agrícola,
du super profit, notamment du patronat agricole. Avec les exportations, pour justement l'État va prendre une partie de ses gains et va du coup donc ces gains vont permettre de mettre en place des politiques d'État de redistribution. Par exemple,
se crée la assignation universelle pour hijo.
Donc il va y avoir la création des allocations familiales pour enfants. Toute personne qui n'a pas de travail, qui est privée, va avoir un salaire. Si cette personne a des enfants, c'est un petit salaire, c'est des allocations pas très importantes, mais tout de même. En retour de ça, la personne doit démontrer que son enfant va à l'école, qu'il est à jour dans les vaccins, pour justement avoir accès à cette allocation familiale. Et voilà, c'est une entrée d'argent pour les personnes les plus défavorisées. Il y a des plans sociaux qui ont eu des différents noms, mais centralement ont servi et que plusieurs personnes puissent se rassembler et puissent mettre en place des petites entreprises, des coopératives, où il y avait des aides et des financements publics pour générer que les personnes puissent vivre de cette activité. Et justement, toutes ces aides au secteur de la population qui n'avait pas accès au marché du travail traditionnel. Donc le marché du travail formel va grossir, il y aura une création de 5 millions de postes de travail dans des conditions assez précaires, mais avant il n'y avait rien du tout.
Rafael Videla, genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños indomables, naciste mal parido, que te vomite Dios. Cara dura, amante de la dictadura, fuiste amigo de los coras y la alta cornia empresarial. Asesino de estudiantes y de obreros, vos fuiste el carnicero de la sociedad rural. Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde, rata inmunda, miserable, la calle de l'Opus Dei, vi de la culpable. La historia te condenó, moriste en cana sentado en un inodoro. La parca eligió tu trono, llegó, llegó y apretó el botón. Che Videla, sorete desechable, para vos y todos los culpables. Ni olvido ni perdón.
Poursuivons avec Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina.
Bueno, esto tiene un límite.
Il va y avoir une limite de tout ça, de cette politique. Le deuxième gouvernement de Cristina, de Kirchner.
Cuando se inicia la crisis mundial.
Quand il va y avoir le début de la crise mondiale en 2008.
Eso en América Latina,
ça en Amérique latine,
los gobiernos progresistas,
les gouvernements progressistes de centre-gauche, ou dit de changement,
de la qualification,
indépendamment de la qualification,
pero que eran gobiernos antineoliberales,
mais qui étaient quand même des gouvernements antilibéraux, certains plus tièdes, d'autres moins tièdes.
Llegó una disyuntiva, si se ajustaba,
donc là, l'Argentine, il y a un moment où il va falloir prendre une décision. Est-ce que la crise, suite à la crise, on va avoir mettre en place des politiques d'austérité ou pas? Ou au contraire, on va approfondir des mesures de redistribution.
L'Argentine no se ajustó.
L'Argentine n'a pas pris des mesures austéritaires à ce moment-là.
Utilizaron políticas heterodoxas.
Donc ils vont mettre en place des politiques hétérodoxes
para no ajustar,
pour ne pas mettre des mesures mettre en place des mesures austéritaires.
Por ejemplo, se prohibieron los despidos.
Il y a eu une loi d'interdire les licenciements.
Si una patronal quería despedir,
si la direction d'une entreprise, une entreprise voulait licencier,
tenía que declararse en crisis.
Il fallait qu'elle se déclare en faillite.
Si se constataba la crisis,
et du coup, si la faillite était prouvée,
el Estado,
l'État avait un plan
de pagar parte del salario,
et il prenait en charge une partie du salaire pour que les travailleurs, travailleuses ne soient pas licenciés.
En Brésil, si hubo ajustes.
En revanche, au Brésil, à ce moment-là, il y a eu justement une politique d'austérité.
Pero lo que impidió es, o no se quiso,
mais ce qui n'a pas été fait ou n'a pas voulu être fait,
es profundizar el proceso.
C'est de justement là, profiter de ce moment-là pour approfondir le processus de redistribution de la richesse. Qui signifiait vraiment se mettre à dos les grands groupes financiers, voilà, être en confrontation avec le capital. Les élections au bout du deuxième mandat de Cristina, donc elle ne pouvait pas être une troisième fois candidate. Le candidat du péronisme, c'était un candidat de droite. Donc Macri, de la droite classique, disons, du parti pro, il va remporter les élections pour 1% de différence.
Bueno, a partir de ahí se inicia,
à partir de là, va commencer
un processus, de ajuste,
un processus justement d'austérité,
de déstructuration,
de démantèlement des mesures de justement de cet état-providence qui avait pu se mettre en place jusqu'alors.
Lentement,
ce démantèlement.
Fundamentalement, Macri quiere ganar las elecciones dos años después.
Donc Macri, comme il souhaite, en Argentine, il y a des élections intermédiaires. Donc le mandat, c'est 4 ans, mais au bout de 2 ans, il y a des élections parlementaires, en fait, ce qu'ils appellent les élections intermédiaires.
Cuando gana las elecciones esas,
quand il gagne les élections de mi-mandat,
immédiatement,
il va y avoir la mise en place de plusieurs lois
para profundizar el ajuste,
pour approfondir l'austérité, justement, les mesures austéritaires.
Y ahí hay un confronto.
Et là, il y a une confrontation très très forte. Le mouvement social va réagir de façon très puissante. Et justement, ce mouvement social qui est un acteur de gros, d'une grande puissance en Argentine quand même. Donc le mouvement syndical, le mouvement social dans son ensemble, les organisations de droits humains et un phénomène nouveau qui apparaît à ce moment-là, qui est le mouvement féministe, qui là, il va vraiment rentrer avec une très grande puissance, vraiment de façon monumentale sur la scène politique. Donc Macri gagne les élections, mais il y aura une crise très très profonde. Beaucoup ont pensé, moi, que le gouvernement allait se casser la figure avant les. Vraiment, on a senti qu'il était au bord du gouffre. Mais comme on arrivait déjà à l'échéance électorale, du coup, tout ce mouvement va se traduire par donner les voix au péronisme. Au milieu de gros conflits et de grosses mobilisations. Là, en Argentine, il y a deux élections présidentielles. Il y a les primaires. Donc, dans les primaires, le péronisme remporte 10% de plus que les autres. Et entre chacune des deux échéances, le peso arrive. Vraiment, il y a une dévaluation de la monnaie très très importante.
Macri decía eso porque los mercados creen que vuelve el peronismo.
Voilà, et du coup Macri ce qu'il disait, il disait: ah, vous voyez, le peso s'est dévalué parce que les marchés pensent que le péronisme va gagner et que du coup ça serait une catastrophe économique. Et justement, ce discours-là, c'était justement pour faire peur et que du coup éviter que les gens votent le péronisme. Mais voilà, il y a le candidat du péronisme qui va remporter au premier tour. D'un processus de redistribution, on a vécu 4 années d'austérité. Donc, le candidat du péronisme va remporter les élections. Et très vite ensuite arrive la pandémie. La pandémie en Argentine a quand même été gérée de façon assez positive. Bah, évidemment que l'économie s'est bouclée, hein, elle a été bouclée. Le gouvernement a interdit les licenciements pendant la pandémie. Donc les gens étaient chez eux, chez elles, avaient le salaire. Donc ils avaient leur boulot garanti, ils ne pouvaient pas être licenciés. Dans certains secteurs professionnels, il pouvait y avoir une réduction de salaire. Mais dans le secteur précaire, ou pour les chômeurs et chômeuses, qui vit de petits boulots à droite à gauche, et ce secteur-là, évidemment, était en état de désespération. Il venait déjà d'une période d'austérité et la question de la pandémie a approfondi les mauvaises conditions de vie de ce secteur-là. Et les deux dernières années, il y a une grosse croissance économique en Argentine. Parce que pendant la pandémie, l'économie était en arrêt. La pandémie finit, ça rebondit. L'économie rebondit. À différence des années du gouvernement Kirchner, cette croissance économique va être appropriée par la classe dominante. Elle ne va pas être redistribuée.
Al revés, proceso hyperinflationario.
Enfin, même il y aura un processus d'inflation très très important.
Muy desgastante.
Très épuisant.
Estamos hablando de casi 200% de inflación.
200% d'inflation à l'année.
En medio de esa crisis.
Du coup, au milieu de cette crise.
8 años de ajuste.
8 années d'ajustement, d'austérité.
ajusté por la derecha clásica.
Donc il y a eu la politique austéritaire du côté de la droite classique.
El peronismo no logra resolver eso.
Le péronisme ne résout pas cette question-là et les politiques d'austérité continuent.
Y ahí aparece Milei.
Et là apparaît Milei.
Jorge Rafael Videla, sanguijuela despreciable, moriste como un cobarde y sobre todo como un gran cagón. Te escondías de las madres de la plaza, a las que hoy el pueblo abraza y a vos siempre te puteó. Centinela de la patria contratista, perseguiste a los artistas, al obrero y al peón. Y a cientos de pibes te afanaste, maldita marioneta de la banca internacional.
Milei qui réussit
con dos políticas muy,
avec muy deux idées fortes, phares. Il réussit à séduire une partie
de la société, centralement le secteur más miserable.
Principalement le secteur vraiment le plus paupérisé, celui qui n'a pas de travail.
Que viene sufriendo
celui qui vraiment ce secteur qui souffre de toutes les conséquences des mesures économiques. Et ce secteur-là va être séduit par Milei avec ses deux idées phares. Il commence à dire que la pauvreté c'est à cause de la caste politique.
La caste politique.
Donc, ce sont des parasites. Cette caste-là empêche que les gens puissent pouvoir entreprendre des projets personnels qui puissent les sortir de la crise. C'est ceux qui administrent la pauvreté. Il va vraiment se syntoniser avec un sentiment dans un secteur qui est dépolitisé et qui dit
«
Personne ne résout mes problèmes. » Et peut-être que vraiment c'est la caste qui est responsable de mes problèmes. Et on va voter ce personnage alors qui est hors système ou qu'on suppose être hors système. Le plus paupérisé, c'est vraiment les classes, la classe la plus qui est au chômage, la plus défavorisée. Ceux qui ramassaient les cartons dans la rue. Ce secteur-là. L'autre idée phare, la deuxième idée phare. Il va présenter comme une solution, voilà, à un problème de l'ensemble des pays en retard, entre guillemets.
Que cuando un país atrasado empieza a crecer,
c'est que quand un pays du tiers-monde ou en voie de développement commence à se développer ou veut se développer,
tiene un desfasaje en la balanza comercial.
Il va y avoir un décalage avec sa balance économique.
Porque vos necesitas dólares.
Parce que tu as besoin d'aller acheter des dollars au marché extérieur. Toi, tu ne produis pas des dollars. Donc, ce décalage dans la balance commerciale, c'est ça, en Argentine, depuis la nuit des temps, tous les gouvernements martèlent cette phrase-là, justement. Le problème, c'est la dollarisation de l'économie. Que l'économie mondiale est dollarisée et que c'est la raison pour laquelle on a les limites que nous avons.
Donc,
si l'économie est dollarisée,
eliminemos el peso.
Et ben on va éliminer la monnaie nationale, le peso.
Y usemos todos dólares.
Et on va utiliser que des dollars, tout le monde.
Y este sector atrasado,
et ce secteur, justement, dépolitisé, il va croire
que si uno cobra 100 pesos,
que si il touche 100 pesos,
va cobrar
ça va se transformer en 100 dollars.
100 pesos,
mais sauf que 100 pesos, c'est 1 dollar. Et il va croire justement ces deux idées justement phares de Milei, voilà, il va y croire. Et avec ce discours-là, il arrive à avoir 30% des voix. Donc, lors de ces justement ces élections-là, le péronisme, Il y avait dans son CV 4 années précédentes de gouvernement et avec des mesures très mauvaises. Premier tour, 43% des voix, c'est le candidat du péronisme qui les obtient. Il a, il lui manque juste 3% pour gagner au premier tour. Là-bas, si tu atteins 46% au premier tour, tu gagnes les élections. Quand, du coup, second tour, ballotage, le péronisme reste à 43%. Et Milei va additionner les voix de la droite classique plus celles qu'il avait. Et il arrive à 56% des voix. L'histoire a commencé comme ça.
Donc,
une personne qui n'avait pas le soutien de la classe dominante, il se transforme en le chef de l'État. Et celui qui va diriger le capitalisme argentin à partir de ce moment-là. La classe dominante commence à, voilà, à s'arranger derrière Milei. Et lui, il profite dès qu'il prend le pouvoir. Il va faire un ajustement économique très violent. Donc 40 000 fonctionnaires ont été licenciés. Il fait disparaître un nombre très important de ministères. Il va réduire à 5 ministères seulement. Ministère d'éducation, d'égalité de genre, de travail. Tous, donc ces ministères-là ne passent à être de simples secrétariats. Non. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va gouverner avec des décrets. Parce que c'est un pays justement présidentialiste. Donc le premier, c'est un décret que nous, on a appelé la loi autobus. Parce que dans cette loi-là, il y avait des articles qui changeaient même la Constitution. Et que du coup, on les a attaqués en justice, on a gagné. Je dis « on » parce que c'est les organisations syndicales qui ont justement saisi la justice, notamment parce qu'il y avait tout un changement sur le droit du travail. Et on réussit à que finalement ce soit considéré anticonstitutionnel. Mais au milieu de tout ce paquet-là, mais la majorité des mesures ont été validées. Il y a une dérégularisation de toute l'économie. Ça a provoqué, par exemple, des politiques d'État. En fait, toutes les multinationales, n'importe laquelle, peuvent s'installer en Argentine. Ils peuvent investir, ne pas payer d'impôts, la loi qui s'appelle Riquet. Et du coup, c'est comme ça qu'il va prendre l'ensemble des mesures qui a provoqué une crise sociale, surtout pour celui et celle qui est salarié, qui a un salaire. Par exemple, aujourd'hui, les salariés de l'État, ils ont un salaire de 800 euros. Quand le panier alimentaire pour une famille de 4 personnes, il est à 1200 euros. Et le secteur privé, et il va mettre des règles pour les négociations salariales, les paritaires. Si on arrive à avoir une augmentation de salaire au-dessus de l'inflation, l'État ne le permet pas, interdit ces accords. Et principalement, cette ouverture économique va se baser centralement. Et du coup, il va bloquer le prix du dollar. Et du coup, l'État vend des dollars sur le marché, ce qui permet que le prix soit maintenu assez bas. Ça a occasionné.
Milei hizo un blanqueo de capitales.
Donc Milei a fait un blanchiment de capitaux.
Junto fue el blanqueo más grande de la historia.
Ça a été le blanchiment le plus important de l'histoire.
20 000 millones de dólares.
20 milliards de dollars.
Y en 6 meses,
et en 6 mois,
se fugaron.
Ils ont disparu. Parce que justement, l'intervention de l'État sur le marché avec les spéculations financières. Donc l'État finit par vendre ces 20 milliards aux spéculateurs financiers. La même chose s'est reproduite avec le nouveau emprunt du FMI. Donc Macri, lors de la crise pendant son gouvernement, avait, pour gagner justement les élections, il a eu un prêt, obtenu un prêt de 50 milliards. De la même façon, le même mécanisme s'était produit avec les 50 milliards. Mais le FMI... En fait, le montant mirabolant de cet emprunt est même illégal parce que c'est 80% du budget du FMI, il avait prêté à l'Argentine. Avec cette dette-là, Milei a quand même demandé plus et on lui a donné quand même 20 milliards de plus. Et si on voit la une du journal de droite argentine qui est le Clarín d'hier, la une du journal Clarín, donc la une c'est le gouvernement désespéré cherche des dollars. Parce que on sait que voilà, ces 20 milliards également, ils ont disparu. Et en fait, c'était le prêt de 20 milliards pour arriver à octobre, là, qui aura des élections de mi-mandat. Ça, c'est le macroéconomique. Dans la réalité objective
que vive en la sociedad,
qu'on vit tous les jours, tout le monde, la société. Les mesures d'austérité continuent
et
apparaît pratiquement impossible de défaire cette politique-là. L'autre élément nouveau que Milei introduit, c'est que toute mobilisation sociale, il va y avoir une répression envers toute mobilisation sociale. Et de façon absolument exagérée, disproportionnée. Une mobilisation, un rassemblement de 500 personnes, 1000 personnes. Et il y a 3000 policiers. Et si toi, tu sors du trottoir, voilà, tu reçois un coup, quoi. Vraiment la répression, les gaz.
Excepto la grande mobilisation.
Alors, il n'y a pas de répression lorsqu'on réussit à qu'il y ait une grosse mobilisation. Voilà, à peu près 100 000 personnes dans la rue. Bon, là, il n'y a pas de répression. Ces mobilisations-là, il y en a eu quelques-unes d'entre elles ont obligé Milei à négocier.
Par exemple, la de los... En defensa de la universidad.
Par exemple, la grosse mobilisation qu'il y a eu en défense de l'université.
Una mobilización muy grande.
Ça a été une mobilisation très très puissante dans tout le pays.
Y el gobierno negoció.
Et le gouvernement a fini par négocier le montant du budget pour l'université.
No se terminó ganando, pero fue una especie de empate.
Voilà, il n'y a pas eu exactement les revendications, le montant exigé par la mobilisation, mais au moins ils ont gagné un peu et il y a eu un match nul.
La otra gran mobilización
et l'autre grosse mobilisation,
fue la de, después de las declaraciones en
donc Davos. Suite aux déclarations de Milei à Davos, donc des déclarations nauséabondes, homophobes, racistes, sexistes. Et ça a provoqué une mobilisation très importante et vraiment avec l'intitulé antifasciste.
trataban de explicar que no era eso.
Et, et du coup, ils essayaient à la télé d'expliquer, mais non, c'était pas ça qu'il avait voulu dire. Et voilà, ils ont essayé de trouver. Mais ils ont senti le coup était fort.
La otra que siempre es muy potente,
celle qui est toujours très puissante et que on continue à maintenir cette puissance,
es la de los derechos humanos.
Les droits humains. Voilà, les mobilisations portées par le mouvement des droits humains est très puissante.
Que obviamente el gobierno no está de acuerdo.
Évidemment que le gouvernement de Milei n'est pas d'accord avec la lecture des droits humains.
La vice-présidente
a été une défenseuse des génocides, des coupables du génocide.
Con eso tampoco.
Ça non. Mais ça, ils n'ont pas réussi à avancer sur ce terrain-là. Ils essayent de taper sur justement tout le mouvement des droits humains à travers la réduction de budget. Le secrétariat des droits humains est rétrogradé en juste une direction des droits humains. Ils vident les centres de mémoire, justement, ceux qui avaient été des centres de torture, etc. Les camps de concentration qui ont été récupérés en centres et devenus des centres de mémoire. Mais pas de face, en fait, par le biais du financement. Ils ont fait la même chose avec la compagnie aérienne nationale, Aerolíneas Argentinas. Elle avait été renationalisée pendant le kirchnerisme, comme le chemin de fer. Donc, ce qu'il avait déclaré dès le début, je vais tout privatiser. La Banque Nationale. En fait, il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas avancé de front pour une privatisation. Mais en fait, l'ouverture de l'économie commence à détruire de façon biaisée. Par exemple, il n'y a pas de privatisation de la compagnie aérienne, mais le ciel argentin est ouvert aux autres compagnies aériennes. Donc, voilà, il y a la mise en concurrence et du coup des compagnies low cost qui s'installent. Donc, en fait, plus que privatiser, surtout son objectif, c'est de détruire l'économie. Parce que effectivement, dans le secteur aérien, il y a une force, l'organisation syndicale des travailleurs et travailleuses aériens est très fort et du coup, et il y avait eu de grosses mobilisations, ils ont fait face à cette volonté de privatiser. Et du coup, il a lâché le morceau, il ne privatise pas directement, mais il ouvre le ciel et du coup, ouvre la possibilité de la mise en concurrence avec les autres entreprises. La Banque Nationale non plus, il n'a pas réussi à la privatiser. Et la confrontation avec le mouvement syndical, il essaye de détruire la structure syndicale argentine qui est au moins depuis 70 ans. Et que historiquement, elle a toujours été très puissante. Elle a une histoire de rapport de force en sa faveur très, très fort. Et que jusqu'à maintenant, aucun gouvernement n'avait pu justement gouverner sans négocier avec le mouvement syndical argentin. Milei est en train d'y parvenir. Il y a eu 3 grèves générales. Les grèves générales et ces 3 dernières, à différence de ce qu'elles ont pu être dans le passé, on a eu du mal à que les gens fassent grève. Ce sont des taux de grévistes, elles sont faibles. C'est une situation nouvelle pour nous
que la classe dominante.
Ils voient tout ça avec beaucoup de sympathie. La classe dominante argentine,
de la cual Milei no fue su candidato,
et qui en plus, il faut savoir que Milei n'a pas été son candidat,
hoy, lo apoya a Milei.
Aujourd'hui, il est soutenu par cette classe dominante, Milei.
Inclusive,
même,
yendo a perdida.
Même si le patronat argentin, les exportateurs, etc., sont en train de perdre de l'argent, mais même comme ça, malgré tout ça, malgré que l'économie n'est pas florissante, ils le soutiennent.
L'apertura de l'economia.
L'ouverture de l'économie pour l'industrie nationale, c'est une catastrophe.
Para el sector del agro.
Pour le secteur de l'agro exportateur, qu'il n'y ait pas de dévaluation de la monnaie. Et c'est ce qu'ils demandent justement chaque fois qu'il faut qu'ils vendent la récolte. C'est gagner moins que ce qu'ils pouvaient gagner l'année d'avant.
Pero a pesar de eso,
mais malgré tout ça,
lo apoyan a Milei,
ils soutiennent Milei
porque tienen la expectativa,
parce qu'ils ont l'espoir
de que, por primera vez en la historia,
que pour la première fois dans l'histoire,
logren generar una derrota,
il va y avoir vraiment un échec,
al movimiento sindical,
que vraiment mettre en échec le mouvement syndical, le mouvement social. Les organisations sociales, les organisations des droits humains. C'est vraiment le désir, depuis la nuit des temps, de cette classe dominante qui, au moins, rêve de ça, de la destruction du mouvement ouvrier argentin depuis au moins 70 ans. Bon, nous, ce qu'on essaye, c'est que, justement, le gouvernement n'y arrive pas. Et voilà, et on est dans ce moment-là.
Videla, Videla, vos siempre fuiste un gusano, ni derecho ni humano, genocida y dictador. Videla, Videla, tu aura nunca tendrá paz y en tu tumba 30,000 almas sobrevuelan. Para vos y los Macera no habrá ni reencarnación. Che Videla, la reconcha de tu madre, que tu karma se convierta en balde y que te vomite Dios.
Vivons avec Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina.
Vous êtes syndicaliste donc dans les transports. Comment s'organise la grève dans le secteur des transports s'il y a eu ?
Donc, quand on fait une grève, tout s'arrête. Il n'y a pas de service minimum, il n'y a rien. Les gouvernements successifs ont voulu toujours nous exiger un service minimum. Mais le gouvernement de Milei, avec deux décrets, avait interdit la grève, ou réduit justement. Il n'y avait que 30% des travailleurs qui pouvaient s'arrêter. Ces deux décrets ont été considérés inconstitutionnels. Nous, dans le transport, beaucoup de fois, ils ont voulu nous exiger un service minimum. On n'a jamais accepté.
Donc,
tous ces syndicats du secteur du transport sont dans la CAT, qui est la centrale argentine du transport. Mais le syndicat des autobus, dans la dernière période, il y a eu beaucoup de crises internes au sein du syndicat, mais ses dirigeants a été allié et à Milei et avant à Macri. Donc les bus n'ont suivi la grève générale qu'une fois. Mais ce syndicat-là, maintenant, est dans une crise profonde. Et du coup, il y a eu un appel à la grève du secteur des bus. Parce que le système des autobus est absolument ingérable en Argentine. Les bus sont privés, ce sont des entreprises privées. Et justement, en fait, c'est l'État qui finance les entreprises privées des bus. Jusqu'à maintenant. Maintenant, ça c'est, il y a plus d'argent, ça s'est arrêté. Et justement, l'État est en train de réduire les budgets, donc il y a eu justement une grève du secteur des autobus. Même si le mouvement syndical regarde vraiment très très mal ce syndicat des travailleurs des autobus. Généralement, ceux qui font la grève, c'est tout le secteur ferroviaire, aérien, tout ce qui a à voir avec la pêche et également du transport fluvial. Mais après, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que toi, Beto, tu racontes les grèves du syndicat et comment peut-être le syndicat du métro est né. Comment on a su le sindicato del metro. Et surtout qu'ils ont arraché, grâce à une grève, de réduire leur temps de travail. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Argentine, il y a un syndicat de branche. C'est le syndicat unique qui peut négocier avec le patronat ou avec l'État. On peut créer des syndicats, mais tu ne vas pas pouvoir négocier les accords collectifs. Les syndicats qui naissent, qui apparaissent, et très rapidement, voilà, ils sont détruits par le gros syndicat. Parce que comme tu ne peux pas négocier, le patronat t'attaque et tu disparais. C'est vraiment très difficile de créer un syndicat en Argentine. C'est plus facile de devenir milliardaire. Notre cas, c'est un cas très étrange. Nous, on faisait partie du syndicat des autobus. On faisait partie du coup, donc secteur métro. La structure syndicale argentine, en plus du syndicat, des représentants du syndicat, des délégués dans chaque lieu de travail, chaque secteur. Et tous les deux ans, il y a des élections pour ces délégués. Et du coup, les délégués ont protection syndicale, un statut. Donc nous, dans ce syndicat national du transport, on était les représentants des travailleurs du métro de Buenos Aires. Et on a commencé à s'opposer avec la direction du syndicat. Nous, on voulait se battre pour certaines choses que la direction ne voulait pas. Comme c'était l'ensemble des délégués, tous les délégués, on s'est structuré comme un courant syndical et on organisait nos grèves, nos revendications propres. On allait au syndicat et on réclamait les choses. Mais chaque fois qu'on y allait, on finissait à coups de poing. Mais littéralement. Donc ça nous a amené vraiment à être en conflit avec le syndicat. Le syndicat signait un accord.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Avec l'entreprise, nous, on faisait grève.